Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
J'ai l'impression que t'as pas mal nettoyé ta relation à l'argent, de l'aspect émotionnel et tout.
Ouais, ouais, non, définitivement. Pour moi, c'est très positif, là. Vraiment, okay. Là. Oui, non, pour moi, c'est vraiment genre, j'aime faire de l'argent. J'aime parler d'argent. J'aime que les gens disent qu'ils aiment faire de l'argent. Ouais. C'est quelqu'un qui me dit genre, ah, je sais pas trop, je pense que j'aimerais faire 100 000 $ cette année. Je suis comme, yeah! Genre, je suis vraiment comme l'espèce de cheerleader en arrière, genre, bravo! Genre, c'est super important parce que quelqu'un qui rentre dans ce rôle-là, pour moi, c'est comme, j'ai fait mon rôle. Il y a eu un déclic que peut-être dans lequel j'ai participé. Puis ça, pour moi, c'est extraordinaire.
Exécuté par qui? Fabrice Florent.
Bonsoir, bonjour, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Chaque mardi et chaque vendredi à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils? Comment ils le gagnent? Comment ils le dépensent? Comment ils l'appréhendent tout simplement? Alors je suis Fabrice Florent et mon métier c'est de faire parler les gens. Je fais parler de mes invités, de leur intime, parce que je suis convaincu que l'intime est bien plus universel qu'on ne le pense. Vous verrez, vous vous reconnaîtrez peut-être dans les histoires des gens qui parlent dans mon micro, alors qu'ils racontent leur histoire. Je fais donc parler des gens, plutôt dans des podcasts de conversation, sur divers sujets. Des pères de paternité, des mères de maternité, des célébrités de leur parcours vers le succès, des hommes de masculinité, et aussi, bien sûr, des gens de leur rapport à l'argent. Je fais aussi un talk show avec ma partenaire Mimi Hegel qui s'appelle le Fab et Mimi Show. Bref, vous retrouverez tous les liens dans les notes de cet épisode si vous voulez découvrir ces autres podcasts. Et d'ailleurs, si vous découvrez mes podcasts, je fais pas mal d'autres choses, allez donc voir ça sur mon site internet fabflorent.com, fabflorent.com. Si mes podcasts et mon travail vous aident d'une manière ou d'une autre, alors vous pouvez m'aider en retour en m'envoyant un don en argent sonnant et trébuchant avec votre carte bleue ou alors en vous abonnant à mon Patreon à partir de 5€ par mois. Vous trouverez les liens dans les notes de cet épisode, merci d'avance, c'est très cool. Enfin, si vous aimez le podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre appli de podcast préféré, en particulier si vous écoutez sur Apple Podcasts ou Spotify. Et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Je vous invite à aller découvrir Discord, c'est un petit logiciel génial qu'il faut installer sur son téléphone ou sur votre ordinateur. En fait, vous pouvez me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux et trouver toutes les infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Merci d'avance et bonne écoute. Je suis très fier de vous annoncer que je fais partie des heureux participants à la Catching Experience de 2024. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que Catching? En fait, Catching, c'est une opération qui est réalisée depuis 5 ans par l'incroyable Geneviève Gauvin. Geneviève est une entrepreneuse québécoise qui réunit chaque année des créatrices et des créateurs de formations en ligne et leur propose de rassembler une de leurs formations dans un bundle qui est vendu à un prix défiant toute concurrence. Alors pour info, le bundle vaut plus de 4 000 € et sera vendu autour de 200 €, ce qui fait environ 96% de réduction, rien que ça. Alors dans le bundle, vous pourrez en apprendre dans environ tous les domaines, que ce soit pour vous former sur la planification, sur l'organisation, sur l'intelligence artificielle, sur la prospection, sur le juridique, sur l'emailing, sur les crypto-monnaies par exemple, ou encore sur les relations presse. Vous retrouverez dans Catching des tas de formations en ligne qui sont directement sélectionnées par Geneviève. Alors, Geneviève m'a contacté, moi, pour intégrer ma formation sur l'interview dans ce bundle et ça me met dans une très grande joie. Alors vous pouvez vous inscrire dès maintenant à l'expérience Catching. Vous rentrez votre mail dans le lien que je vous fournis directement dans les notes de cet épisode. Alors pensez-y parce que vous cliquez bien sur mon mail parce que je suis rémunéré à la commission. Et en fait, vous recevrez un lien pour vous procurer le bundle entre le 19 et le 23 février. Pas un jour de plus, vraiment la vente est comprise entre ces 5 jours-là. Geneviève organise également un gala de clôture à Paris le 23 février au soir. Ça s'appelle le gala Elevate. J'y serai avec tous mes comparses et ça sera pourquoi pas l'occasion de nous rencontrer. Alors si vous souhaitez vous procurer une place, c'est pareil. Je vous mets un lien affilié directement dans les notes de cet épisode. Vous vous doutez à quel point je suis heureux de vous faire découvrir Geneviève Gauvin et son rapport tout à fait particulier à l'argent. Elle devrait normalement vous mettre la patate. Je vous souhaite une belle écoute et à très vite. Bienvenue Geneviève.
Merci.
Dans Histoire d'argent.
Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis contente qu'on vienne parler d'argent. C'est dans mes sujets chouchous.
Ouais. C'est pour ça que je me suis dit, trop bien.
Oui.
Déjà, on va aussi publier ça dans Histoire de succès parce que je crois que les deux vont bien marcher ensemble.
OK, merci.
Mais qui sera à la base dans Histoire d'argent. Donc, pour les gens qui sont dans Histoire de succès, venez écouter mon podcast Histoire d'argent si l'argent vous intéresse parce que c'est incroyable. Je trouve que mon podcast est incroyable, tu vois.
Oui, je suis bien d'accord.
Je le dis. Et effectivement, je trouvais ça intéressant de te faire parler d'argent parce que je t'en ai entendu beaucoup parler dans tes podcasts, etc. C'est un vrai sujet pour toi.
C'est littéralement dans la bio sur Instagram, la fille qui aime l'argent, qui a les cheveux roses, qui aime l'argent et les cocktails. Donc voilà.
Ah bah voilà. À bientôt, histoire de cocktail avec Geneviève.
Oui, oui, oui.
En marraine.
100%, hein? Je suis mixologue aussi sur le side.
Incroyable. mais effectivement, on va parler un peu de ton rapport à l'argent. Si on devait te présenter,
ouais.
Si je devais te présenter, moi j'ai envie de dire en fait que t'es une infopreneuse, c'est, ça, c'est comme ça qu'on dit?
Écoute, je dirais oui, mais en même temps, je transitionne hors de ce titre-là.
Okay.
Dans le sens où pendant tellement longtemps, je me suis approprié, c'était le modèle que j'ai connu, c'est comme ça qu'on a lancé l'entreprise avec mon mari, c'était le genre de produit qu'on faisait, on éduquait les gens. Et puis, dans 2022, j'ai comme vécu un petit pivot où j'étais comme... Oui, j'aime ça avoir des formations et tout, mais en même temps, je pense que je suis en train de... J'aime l'analogie de la plante en pot, où à un moment donné, on est dans son pot, puis on fait beaucoup de racines, on s'imprègne, on prend toute la place finalement. Puis j'étais rendue à plus avoir de place. Mmh. Puis qu'est-ce qu'on fait avec les plantes comme ça? Bien, il faut les rempoter dans un pot plus grand. J'avais besoin de cet espace-là. Puis le pot que je laissais derrière pour moi, c'était toutes les formations en ligne, je te dirais, pour aller un peu... initialement, je te dirais vers le vide, parce que j'étais comme, j'ai ce gros projet-là qui fonctionne, je vais aller vers Catching, je vais aller vers cet événement-là. Mais en faisant de la recherche un petit peu, j'étais comme, je vais aller vers... Enfin, l'animation, je pense. J'aime ça. J'ai pas toujours eu un podcast, mais j'en ai trois. J'ai ce gros événement-là où je suis un petit peu justement chef d'orchestre et tout. Ouais. Fait que j'étais comme, je pense que je vais aller explorer là pendant un moment.
OK. Tu as mentionné Catching. Pour les gens qui ne l'ont pas, c'est un événement que tu organises tous les ans depuis 5 ans maintenant,
oui,
c'est ça?
Oui, en 2024, donc c'est la 5e édition qu'on organise. Catching, qui est le son d'une caisse.
Catching!
Catching, exactement. Mais je dois le mentionner parce que je me suis rendu compte avec les années que c'était pas commun en France, en fait.
En France, pas du tout.
Mais c'est ça. Ouais. Mais pourtant, j'ai commencé justement le bundle. Je l'ai lancé la première année en 2020. Ça se voulait être un bundle pour les Québécois, par des Québécois. Et puis, j'ai eu une ouverture en novembre dans la préparation. Puis, je suivais Aline Bartoli depuis un moment sur Instagram. On s'était parlé un petit peu. J'étais comme, tu veux-tu la place? Et de là, il m'a ouvert finalement le pont vers l'Europe, je te dirais. Mais à la base, c'était un bundle
incroyable.
Québécois. Et donc, c'est pourquoi j'ai choisi ce nom qui était...
Catching.
Et un peu si peu compris finalement par les Français, mais dans tous les cas, Catching donc est un bundle ou un pack de formation en ligne qu'on vend à une fraction du prix pendant quelques jours pour vraiment offrir aux gens l'accessibilité de la formation pour donner les outils nécessaires parce que je crois tellement à l'entrepreneuriat en ligne, à tout ce que ça m'a amené personnellement, la liberté et tout. Je veux redonner ça aussi. T'sais. Puis après ça, je vends les formations des autres maintenant, mais dans tous les cas, de créer cette opportunité-là pour moi, c'est une façon de redonner, c'est une façon de vraiment de créer des opportunités.
Puis on s'est rencontrés parce que tu m'as proposé de
Absolument.
Mettre ma formation à l'interview dans Catching cette année. Donc merci beaucoup pour cette opportunité.
Mais ça me fait tellement plaisir.
Et je me suis dit, faisons connaître déjà Catching auprès de mon audience, mais aussi parlons d'argent ensemble.
Parlons d'argent!
La première question que je pose à tous mes invités, c'est si je te dis argent, qu'est-ce que ça t'évoque?
Liberté.
Liberté.
Littéralement. Le premier mot que ça me vient, parce que c'est des... La liberté, pour moi, c'est d'avoir des choix. C'est de pouvoir dire non à plein de choses. Puis la liberté dans... La liberté veut dire plein de choses pour plein de personnes. C'est super large. C'est comme parler de créativité, à la limite. Mais pour moi, la liberté, ce que ça m'a servi, mon argent, c'est d'aller vivre ailleurs. C'est d'aller vivre ma vie de digital nomade. Quand j'avais pas mon enfant, mais je l'ai faite même aussi avec mon enfant aussi. On a voyagé ensemble. Mon modèle d'affaires m'a permis d'aller, de juste prendre l'ordi, de me déplacer en Thaïlande, au Vietnam, au Japon et tout. Mais ça prend des ressources aussi. Mon argent, c'est ma liberté. Mon argent, c'est mes choix. C'est où est-ce que je vais vivre. C'est qu'est-ce que j'ai envie de faire, puis je vais y aller. C'est de créer ces souvenirs-là, ces expériences-là, c'est ça qui va me rester à la fin, tu sais. Puis c'est vraiment comme ça que je le vois au final. C'est que oui, j'aime l'argent pour ce que ça m'apporte, pas parce que je l'accumule dans un compte de banque, tu sais.
Ah, je vois. Les gens l'auront sans doute capté, mais t'as un petit accent dénote le fait que tu vives outre-Atlantique. Tu vis au Québec.
Absolument à Montréal, oui.
Toi qui as beaucoup bossé avec des Français là ces dernières années.
Oui,
comment est-ce que tu regarderais les différences qu'il y a dans la relation à l'argent entre le Québec, où j'ai l'impression qu'il y a quand même une grosse influence nord-américaine pour le coup, dans la culture par certains aspects?
Ben, je pense que ça surprend beaucoup de monde parce qu'on a tous nos points de vue puis on pense que l'autre est meilleur. Dans le sens où il y a beaucoup de Français qui m'arrivent avec ce point-là. Je pense que vous êtes plus ouverts par rapport à ça au Québec, justement les États-Unis, et ainsi de suite. Mais au Québec, on a cette espèce de mentalité-là de « on est né pour un petit pain ». On est né pour peu. Il n'y a pas comme une espèce de vision d'ambition et tout.
On est né pour un petit pain, t'as dit?
Oui, on est né pour un petit pain. Puis c'est vraiment une expression qui est comme... Puis je l'ai mis sur mon site web. On a-tu le droit de sacrer? On a-tu le droit de... Mais dans le fond, sur mon site web...
De sacrer, de...
Oui.
De jurer, oui.
De jurer, oui.
Tu peux dire des gros mots.
Merci. Donc, sur mon site web, je l'ai marqué dessus, sur vraiment la homepage, t'es pas né pour un petit pain, t'es né pour toute la fucking Mitch. Tu sais, je suis comme, non, mais tu peux vouloir tout. Puis, tu sais, quand je dis tout, c'est pas juste vouloir l'argent pour l'argent, c'est tu peux vouloir le temps puis l'argent, tu peux vouloir la famille puis l'argent, tu peux vouloir le succès et tout. Mm. Fait que c'est vraiment d'aller englober toutes ces choses-là puis d'utiliser l'argent comme, tu sais, une ressource. Mais c'est ça, au Québec, je suis pas sûre qu'on est vraiment mieux. Pour vrai, il y a quand même un malaise par rapport à l'argent. Tu sais, il y a comme une séparation, tant qu'à moi aussi, encore. C'est partout avec les riches, la classe moyenne et tout. Puis c'est très ancré dans qui on est. On ne veut pas faire gros, on ne veut pas déranger trop. Puis ceux qui dérangent beaucoup, ben, c'est comme partout. On les regarde ils doivent être malheureux. On aime ça, se dire qu'ils sont malheureux parce que nous, ça nous rassure que, ben, parce qu'on reste dans un statu quo, on est correct comme ça. Puis eux, ils ne sont pas bons, tu sais. Fait que je pense que c'est la même chose, en fait.
OK.
Ouais.
OK.
Ouais.
Écoute, je te crois, hein, sur parole.
Mais hein, c'est si ça, tu ne peux si pas vraiment confirmer.
Je ne peux pas te dire oui ou non. Ouais. En tout cas, c'est trop intéressant d'avoir ton point de vue. Parce que, tu vois, moi, de l'extérieur, je me disais, ouais, effectivement, il y a peut-être l'influence nord-américaine qui vient jouer, où il y a une forme de décontraction. Alors, je ne dis pas que les Américains ont une relation à l'argent extrêmement saine, hein, parce que c'est autre chose.
Pour tous, en tout cas, ouais.
Mais en tout cas, il y a une forme de détente, en fait, par rapport au sujet qui est plus tranquille qu'en France, quoi, tu vois.
On dirait. Je n'ai pas votre expérience, finalement, sur place, mais en tout cas, j'ai mon expérience québécoise, puis pour vrai... To a point. Genre, oui, les US, ils sont quand même présents dans notre vie, dans ce qu'on consomme aussi beaucoup. Mais je pense qu'on vit, au Québec, on vit dans une bulle. Tu sais, souvent, j'entends, tu sais, oui, on est Canadien, mais on n'est pas Canadien. On est Québécois.
On est Québécois.
On est vraiment Québécois parce que le Canada, c'est majoritairement anglais. Nous, on est dans notre bulle du Québec, on vit nos trucs, puis même que souvent, c'est genre, c'est ce qui vient du Québec, c'est meilleur. Puis, d'un sens, oui, c'est cool de stimuler l'économie et tout, mais de regarder ce qu'il y a ailleurs. Moi, j'ai vraiment comme un esprit ouvert sur ce qui se fait comme ça. Puis souvent, mais je crois que ça limite aussi comme les opportunités, l'expansion. On regarde beaucoup la France comme étant dit, il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah, quand je vais être populaire à l'international, je vais être populaire en France. » La francophonie, c'est majoritairement la France, tu sais. Vous êtes beaucoup
plus... Pour
l'instant.
Bienvenue bientôt dans l'Afrique.
Oui, non, effectivement. Mais remarque même qu'au Canada, il n'y a pas que le Québec non plus. Mais on regarde quand c'est gros, on est 8 millions, on n'est pas beaucoup. D'entrepreneurs en plus, ben, c'est une fraction de ça. Fait que des gens qui prennent le contrôle de leur argent, de leur futur, de leurs ambitions.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Il y en a une poignée, on est cinq.
Et pourtant, tu vois, j'ai pas l'impression que par rapport justement à cette ambition que tu peux expliquer là, tu t'es pas dit « Ok, je vais me lancer aux US, quoi ». Parce que je suis des podcasteuses que je croyais américaines. En fait, je me suis rendu compte qu'elles étaient québécoises. Elles ne parlent jamais anglais. Elles ne parlent jamais français, pour le coup. Elles sont full américaines.
Ben, tu serais surpris de savoir que j'ai commencé mon parcours en anglais.
Incroyable.
Mais c'est pas parce que j'ai choisi le marché anglophone. C'est parce que mon début entrepreneurial était vraiment en parallèle de celui de mon mari. Dans le fond, on a jumelé nos expertises. On a fait une entreprise qui s'appelle NEG. Mon mari s'appelle Nicolas. NEG Media Inc. mais c'était vraiment lui le visage de l'entreprise. C'était lui qui créait les produits. Donc, j'étais vraiment plus à l'arrière-scène. Je l'aidais avec le marketing, avec l'organisation de la business. Mais c'était en anglais parce que c'était ça, les opportunités. parce que c'était ça les collègues qu'on avait, c'était ça et tout. Fait que quand on a commencé, tout était... Je me suis surtout dit, ben, tout le temps dit que... Je pense que c'est pareil ici, que les États-Unis sont en avance sur nous, sur c'est quoi les différentes stratégies. Puis je pense que c'est encore le cas. Fait qu'on s'est lancé là déjà parce qu'il y a le bassin de population, la niche est énorme.
Ben oui.
Donc, on est allé là, malgré le fait qu'on était deux Québécois avec des accents bien prononcés. C'est toujours été exotique. C'est exotique pour les Français, c'est exotique pour les Anglais.
Ça marche très bien.
Voilà. Donc, au final, c'est ça, on a commencé en anglais quand même. Puis éventuellement, après un tour du monde, beaucoup de voyages et tout, je suis revenue au Québec pour accoucher, pour avoir mon enfant, puis je voulais avoir la santé, la santé publique.
La sécurité sociale.
Exactement. Et je me suis rendu compte que j'étais comme, je pense que j'ai accumulé de l'expérience et tout, je vais bâtir mon truc en français. Et c'est vraiment à partir seulement de 2018, sur un parcours qui commence en 2013, que j'ai commencé à inclure le français dans le modèle d'affaires.
OK.
Oui.
Ton premier souvenir par rapport à l'argent? Ton premier souvenir marquant?
Oui, c'est ça. Mon premier souvenir significatif, je te dirais. C'est au secondaire, ce qui est l'équivalent du lycée, si je ne me trompe pas. Je devais avoir à peu près 15 ans. Et puis, évidemment, j'ai d'autres souvenirs avant, là, mais c'est lui qui a commencé, je te dirais, à changer ma perspective sur c'est quoi l'argent. Mes parents sont pharmaciens. Mes parents font des bons salaires. On a toujours eu beaucoup de confort. J'ai été très privilégiée dans ma vie en général. Je suis blanche en général, mais outre ça, mes parents étaient relativement riche.
Oui, il y a des plans pauvres aussi.
Voilà. Et puis, on avait une bonne maison. Tout le monde a sa chambre. J'ai eu 3 enfants. Tout le monde avait sa chambre. C'est grand, énormément d'espace. La piscine, la banlieue. Et puis, j'allais dans un collège privé. J'avais des amis qui venaient à la maison la fin de semaine, le week-end. Puis, leurs parents venaient les porter. Puis, je commençais à avoir des commentaires sur la taille de la maison de mes parents. Puis, ils disaient, fait que t'es riche. J'ai dit, non. J'ai pas d'argent. Dans mon compte de banque, il y a 50 $. C'est que je ne suis pas riche. Mais j'ai commencé à voir mes parents sous l'angle, finalement, mes parents sont riches. Ah, c'est quoi? Pourquoi est-ce que c'est mieux? Parce que tu vois, il y a une espèce d'admiration, finalement, de la part d'autres parents qui voient la maison. Est-ce que c'est mieux? T'sais, cette discussion-là interne, genre, est-ce que ça a hanté mes rêves? Non, pas particulièrement, mais je te dirais que ça a commencé à changer un petit peu l'espèce de supériorité que les gens voient chez les gens riches, qu'on s'impose à la limite, parce que mes parents sont pas, ils regardent pas les gens d'en bas nécessairement. Mais en même temps, fait que je pense que pour vrai, c'était ça. C'est arrivé plusieurs fois où genre, les gens arrivaient à la maison, t'as une grosse maison. Puis je dis, j'ai rien, mais donc, OK, donc c'est bien, je dois avoir une grosse maison et tout. Puis il y avait quand même ce discours-là à la maison de on doit réussir. Puis la réussite était quand même liée à l'argent. Une espèce de forme de sécurité, oui. Mon père n'a pas été élevé dans le luxe. Ma mère, oui. Ma mère était fille de médecin. Il se promenait dans la ville, faisait des tours de machine, qui appelait ça quand... des tours de voiture. Ils allaient juste se promener avant d'aller à l'église le dimanche. Et du côté de mon père, c'était 4 gars dans un petit appartement. Il y avait à peine de chambre pour tout le monde. Ça se pilait dessus. Fait que, tu sais, lui, il a vu son père struggle aussi. Fait qu'on avait vraiment deux familles, deux ambiances.
Ouais.
Et puis lui, je pense que ça l'a énormément marqué de voir justement ses parents struggle. Puis ça, c'est devenu pratiquement c'est devenu quelque chose de très important pour le standing, pour qu'est-ce qu'on est. Puis, fait que, tu sais, je te dirais que c'est...
Il y avait une forme de revanche, c'est ça, chez ton père? Une revanche sociale?
Je sais pas si c'est une revanche ou c'est plus un comme... c'est flatter l'ego, mais pas dans le mauvais sens non plus. C'est plus, c'est comme ça que j'ai réussi. J'ai réussi. Je suis partie de rien. Puis je réussis. Fait que ça a tout le temps
été... C'est pas forcément négatif, en revanche.
Non.
Tu vois?
Oui, moi, je l'aurais vu vraiment de façon négative.
Non, il y a une forme de j'ai réussi à faire
réussi,
ça, quoi.
Je comprends. Mais dans ce cas-ci, ouais. Oui, j'ai réussi, puis c'est ça que je veux pour mes enfants. Puis souvent, au détriment, tristement, de qu'est-ce qui était vraiment important à nos yeux, de nous, d'enfants. De genre nos passions à nous, ce genre de trucs-là, de genre non, mais ce qui est important, c'est que tu t'ouvres des portes pour aller vers les métiers qui font beaucoup d'argent. Puis peut-être que finalement, tu les feras pas, puis c'est correct, mais c'est ça qui est important. Il y a une forme de sécurité, je pense, d'avoir vécu peut-être dans l'insécurité financière. Mais ce genre de trucs-là, fait qu'il y a une espèce de deux dynamiques entre on doit avoir de l'argent, pas nécessairement parce qu'on veut l'accumuler encore. C'est pas des gens qui vivent dans le luxe extrême non plus, mais on doit avoir l'argent pour la sécurité, puis c'est super important. Puis aussi, justement, en parallèle, justement, l'histoire avec les parents des amis qui voient ça, puis qui regardent, je veux dire, d'en bas, mais c'est con, il n'y a pas d'étage, tu sais. Puis ils regardent, puis ils font « Wow, t'es riche! » Qu'est-ce que ça veut dire être riche? Donc, mais ça m'a pris jusqu'à ce que je construise mon entreprise avant que vraiment bâtir cette opinion-là sur c'est quoi l'argent. Parce qu'avant ça, on n'en parlait pas à la maison.
D'une manière générale, c'est vraiment le cas de plein de familles.
Oui,
sais.
Absolument. Puis plus on n'en parle pas, plus les gens sont mal à l'aise. Plus, tu sais, voilà.
Oui. Oui. Et toi, de ton côté, t'as grandi avec l'idée que c'était important d'avoir de l'argent pour de la sécurité, c'est ça? Parce qu'aujourd'hui, tu parles, tu dis que c'est la liberté, mais ça a changé ça ces dernières années.
Je te dirais que c'est une, idée qu'on m'a imposée. Ça n'a jamais été important pour moi. Genre, c'était dans l'air.
Qu'on t'a transmise.
Ouais, mais c'était dans les discours qu'il y avait à la maison. C'est comme, ouais, c'est important. Puis à un moment donné, c'était comme, ouais, j'imagine. Mais c'était pas comme important pour moi. Puis c'est à partir du moment où, justement, ben, on commence à faire de l'argent en ligne avec... Puis on a commencé fort, dans le sens où on a réussi à faire des bons partenariats au début.
Quand tu dis « on », tu parles...
Moi et mon mari, oui, Nicolas, Nick.
Nick.
Nick, on a commencé fort. On a fait le bon partenariat avec les bonnes personnes qui nous ont permis énormément de visibilité. Puis on a toujours fonctionné avec l'affiliation depuis le début. Ce qui nous a permis, dès la première année, on était déjà sur 350 000, 400 000 Canadiens par année. Puis là, sauf que là, on n'avait aucun concept de gestion financière parce que ni d'une famille ni de l'autre, on en avait eu vraiment des discussions.
Ah ouais.
Donc, c'est important, mais on n'en parle pas. Ça fait qu'au final...
Et lui, il vient d'une famille modeste aussi, c'est ça?
Oui, quand même. Je te dirais, si on est pour comparer, il y avait moins de revenus du côté de mon mari qu'il y en avait de chez moi. Mais fait que les deux, on n'avait pas vraiment de discussion. On arrive là-dedans. « Ok, cool, on peut se payer des salaires de 100 000 chaque dès la première année. » Mais là, c'est de 100 000, de 350 000. On n'a pas pensé aux dépenses, on n'a pas pensé aux impôts. Ce qui a fait en sorte que dès la première année, on a créé des gigodettes au niveau du gouvernement. Parce qu'en plus, on en sortait de l'entreprise. On n'avait vraiment aucune éducation financière tant que ça. Tu baignes dans l'argent puis tu n'as aucune éducation financière.
Vous n'aviez plus de quoi financer les impôts, par exemple, c'est ça?
Ah, oui, yes. Exactement. Puis après ça, le gouvernement, il nous courait après pour avoir ces paiements-là, tu sais. Puis ça a pris plusieurs années parce que là, on a pris des marges pour payer ça, des formes de crédit pour payer tout ça. Écoute, on engageait à gauche, à droite aussi pour avoir de l'aide, mais sans comprendre que les ressources humaines, au final, ça nous coûte énormément d'argent. Puis on sortait de l'argent pour payer le mariage, on s'est payé un condo qui coûtait trop cher, puis le mariage a coûté très cher aussi. Mais dans tous les cas, on n'avait pas de notion de gestion d'argent ni personnelle ni entrepreneuriale. Fait que à partir du moment où on s'est rendu compte que là, il y avait des dettes qui s'accumulaient, puis il y avait une situation financière qui était vraiment stressante, ben on a dû prendre action puis se mettre les mains là-dedans. Puis c'est vraiment seulement à partir de ce moment-là que l'argent est devenu important pour moi. Puis pas important parce que je veux en avoir plein puis que j'ai le stress d'en avoir, puis au cas où. Parce que là, mon lifestyle était impacté. Parce que ce moment-là, quand vraiment le creux là, de l'argent, on était en Thaïlande, on avait une grosse team, puis on était en train d'annoncer aux gens qu'on n'était pas capable de les payer, que ça n'allait pas, puis c'était comme, même mon lifestyle, qu'est-ce que je vais faire? C'est important pour moi aller vivre ailleurs, aller vivre ces expériences-là. Puis là, peut-être qu'il va falloir que je revienne, que je sacrifie tout ça. Ça ne marche pas du tout pour moi. Fait que là, il faut que je reprenne ce contrôle-là. Puis que là, puis une fois que ça a été fait, là, il faut que j'en parle à tout le monde.
Ouais.
Ouais.
Mais j'imagine que ça n'a pas été aussi simple que ça, parce que à ce moment-là, là, t'es en train de buter sur justement une forme d'inéducation. T'as pas été du tout éduqué.
Non.
Comment t'as fait? Comment vous avez fait?
Ben, je te dirais que j'ai pris un bon contrôle là-dedans personnellement aussi, mais tu sais, en tout cas, chacun ses forces. Là, il y en a que lui qui a que j'ai pas du tout.
Mais j'imagine que t'as fait des peurs.
Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai fait des peurs.
Que tu avais des peurs.
Ah, absolument.
Ah, qui disait que en fait tu
ben oui.
Tu dépensais sans vraiment regarder parce que ça c'était juste ok il y a plein d'argent
oui.
C'est fait pour être dépensé dépensons
oui,
tout quoi
à la limite en fait même c'était dans le discours de mon chum initialement de mon mari donc c'était ouais ben l'argent c'est quelque chose que son père lui a dit aussi l'argent c'est fait pour être dépensé ouais mais tu sais c'est parce que si tu dépenses tout après ça puis que tu as des responsabilités ben là tu te crées une forme de dette envers toi-même plus tard aussi que ce soit d'argent ou de bonheur à la limite ouais. Tu sais fait que donc de cette gestion là a été à apprendre vraiment à la dure puis oui ouais les livres honnêtement moi le livre Profit First qui m'a énormément aidé de Mike Michalowicz j'ai lu des livres de ben je dis des mais il y en a pas des tonnes en fait vraiment j'ai suivi des certains livres qui ont vraiment eu un impact, comme Worry Free Money de Shannon Lee Simmons, c'est une Canadienne aussi. Je suis pas mal sûre que son livre n'est pas en français, mais bon, la plupart des livres que je lis sont en anglais. Mais dans tous les cas, ces deux livres-là, du côté personnel puis du côté finance entrepreneuriale, ont vraiment permis une croissance. Puis c'était plus simple. Et pour moi, ça m'a permis justement, c'était pas une sécurité financière, c'était vraiment une gestion émotionnelle de genre, je suis en contrôle de mon futur à la limite, du projet qui me tient tellement à cœur. Je sais qu'il peut aller loin parce que maintenant, je contrôle cet aspect-là.
Comment t'as fait pour gérer, tu vois, pour arriver à cette gestion émotionnelle? Parce que tu l'expliques, avec le recul, tu l'expliques comme si ça avait été facile, mais j'imagine que...
Oh, ben, ça a été beaucoup de pleurer en boule dans un coin, 100%. Alors, je veux dire, il faut les gérer, ces émotions-là, il faut les vivre, tu sais. Mais après, à un certain moment, c'était comme, bon, ben, on va trouver des solutions, parce qu'il n'y a pas de solution, c'est le statu quo ou c'est le... Tu sais, ça va dans l'autre sens.
Tu as compris qu'il y avait de l'émotion derrière? Quand est-ce que tu as compris qu'il y avait de l'émotion? Parce que...
C'est vraiment l'appel, je dirais, en Thaïlande, où est-ce qu'on était devant notre team. Puis qu'on leur annonçait, on peut pas vous payer. Puis on voyait les gens qui étaient comme l'espèce de malaise aussi. Puis nous, on était extrêmement mal à l'aise par rapport à ça parce que c'était important de bien traiter les gens, c'était le respect de tout ça aussi. Puis j'étais comme, OK, là ça va pas du tout. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Faut qu'on revienne. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on peut revenir si on n'a pas assez d'argent pour payer les gens, le billet d'avion? Tu sais, toutes les questions. On était coincés. Puis cette espèce d'être coincé dans... On m'impose quelque chose, ça m'a vraiment fait sentir mal à l'aise.
On revient à la liberté.
Oui, exactement. J'étais comme, non, je vais être libre de faire ce que je fais, puis là, je peux pas. Donc, à la place, j'ai repris... C'est ça, j'ai pris ce contrôle-là, mais comme je t'ai dit, c'était en pleurant, en faisant mes trucs, là. C'était comme, ça va bien aller. Mais vraiment, Profit First, qui est un livre que j'ai vraiment adoré parce que c'est super simple. C'est une question de gestion financière qui fonctionne avec des pourcentages basés sur des moyennes de comment est-ce que les compagnies qui ont le plus de succès, appelons-les financièrement, là, parce que vraiment, c'est ça le sujet du livre, qui ont le plus de succès financièrement, comment est-ce qu'ils gèrent? C'est quoi les pourcentages qui vont donner pour les dépenses? Comment est-ce qu'ils vont se payer aussi eux? C'est quoi les... Et c'est aussi de changer la mentalité de profit moins revenu moins dépenses égale profit, de changer ça et de se dire non, on se paye en premier. Le profit, c'est ça qui est en premier. Donc, c'est revenu moins profit égale dépenses. Ce qui reste, c'est avec ça qu'on peut jouer seulement. Avant ça, on a mis de l'argent pour les impôts, on a mis de l'argent pour le profit. Donc, on fait du profit sur chaque dollar qu'on fait, puis on a mis de l'argent de côté pour la paye. Une fois que ça, c'est fait, là, on peut jouer avec ça.
Trop intéressant.
Ouais, c'est super simple.
C'est ce bouquin-là qui t'a fait changer le...
J'utilise encore ça. Depuis, écoute, je ne sais pas, je ne me rappelle plus exactement c'est quoi le moment. C'est parce que c'était 2015. Depuis 2015, j'utilise ça de façon religieuse. Et puis, les différents pourcentages vont changer selon la taille de revenus de l'entreprise. Donc, évidemment, on les change parce que plus ta compagnie grossit, plus probablement tu vas avoir besoin de dépenses pour que ce soit pour la masse salariale. C'est quand même beaucoup de...
C'est de l'argent. Hein?
C'est beaucoup d'argent. Mais initialement, quand c'est que toi, quand tu es solopreneur, ben là, tu mérites un gros pourcentage de ça parce que c'est toi qui fais tout le travail. Donc, la paye, si je me trompe pas à ce moment-là, elle est à 50 %.
Ouais.
50 % des revenus. Après ça, il y a un 15 % pour les impôts. Puis le montant est assez petit, mais c'est à cause que c'est pris du chiffre d'affaires gross. C'est pas pris du après-dépense. Donc, le 15 % pour les impôts, 50 % pour le salaire. Je me rappelle plus de l'autre pourcentage. Puis le reste, donc, s'en va dans OPEX, mais qui est Operation Expenses, les dépenses d'opération, s'en va là-dedans. Mais là, maintenant, c'est plus les mêmes pourcentages que j'ai, c'est plus les mêmes ratios. Mais je le fais encore religieusement 3 fois par semaine. Non, le split
trois
comme...
3 fois par semaine,
Le split comme ça est fait le 10 et le 25 de chaque mois, mais 3 fois par semaine, j'ai les mains dans mes comptes de banque puis je regarde que tout est à jour.
Ah oui, donc tu suis toi-même, encore aujourd'hui, alors que ta boîte, elle fait des centaines de milliers de dollars.
Oui, absolument, oui. Ben, c'est sûr que la comptabilité, là, la tenue de livre, les trucs, et j'ai un comptable aussi, mais je garde les mains dans mes finances tout le temps. Trois fois par semaine. Je regarde mon compte de banque, puis je regarde qu'est-ce qu'il y a.
3 fois par semaine?
Oui. J'update les comptes. Je regarde qu'est-ce qu'il y a. Tout est à l'aise. Je bouge l'argent si c'est besoin. Mais le 10 et le 25 de chaque mois, again, de façon très religieuse, je m'en vais faire le money split. Donc, ce que je fais, c'est que je prends qu'est-ce qu'il y a dans le compte income. Je le déplace selon les pourcentages dans les différents comptes parce que ça fonctionne vraiment à différents comptes aussi. J'en ai 3 total parce que je me gère avec le split de impôts. Dans le livre, il suggère vraiment un compte par catégorie.
Ah oui,
ça dépend du type de personnalité. Des gens que si vraiment ils ont peur de toucher à l'argent.
Tu as tout le contrôle, oui.
Ouais. Mais tu sais, en tout cas, moi, ma personnalité fait en sorte que j'ai income, je mets tout ça dans savings, puis le reste dans OPEX, mais dans savings, j'ai mon suivi quand même. Exactement. J'ai quand même mon suivi des sous-comptes, donc d'impôts, de paye et de profit. Et je fais donc le 10 et le 25, le split chaque fois depuis 2015.
Ça me fascine, mais en fait, avant ça, je voudrais te parler de te payer en premier.
Oui.
C'était pas le cas avant.
C'était pas un concept, mais déjà, c'est pas un concept populaire. Hein?
Non.
Au niveau de l'entrepreneuriat, on se paye en dernier. C'est avec ce qui reste. Puis s'il y a pas d'argent, tu te payes pas pendant 2 ans.
Ouais.
Mais c'est quoi ça?
Been there, done that.
Mais oui, mais je veux dire, est-ce qu'on est des esclaves? On sort du 9 à 5, puis je vais appeler ça, c'est vous, le 9 à 20, là, je sais pas quoi. Non, mais on sort du 9 à 5 pour avoir notre liberté et tout, mais là, t'as pas de liberté, t'as aucun confort pendant 2 ans, à la sueur de ton front. Puis oui, je comprends l'espèce de passion envers ce qu'on aime et tout, mais au final, c'est pas de l'esclavagisme. Donc, on fait ça pour nous, à la base. Vraiment. Puis la plupart des gens, quand on leur demande pourquoi tu te lances en entrepreneuriat, ben, je vais être plus libre, je vais avoir le contrôle sur mon horaire, je vais avoir les trucs. Tu ne seras pas libre quand tu ne vas pas être payé, là. Il va falloir que tu travailles énormément ailleurs pour être capable de payer ton loyer, pour être capable de payer ton épicerie. C'est pas un lifestyle, là.
Mais tu sais que je crois que la plupart des entrepreneurs à qui j'ai parlé, en tout cas, me disent que, en gros, cette liberté-là qu'ils finissent par avoir, par acquérir, ils y mettent aussi un prix. Et donc, en fait, c'est aussi l'une des raisons, et moi, je crois que j'étais là-dedans, tu vois, c'est une des raisons pour lesquelles tu ne te payes pas. Ben c'est regarde, que la liberté, quelque part, c'est une forme de rémunération, tu vois.
Ben, je vais mettre ça en perspective avec un autre concept, OK? La retraite. Je ne crois pas vraiment à la retraite. Dans le sens où moi, ma retraite, je la vis tous les jours. Dans le sens où, la plupart... Là, cette année, je travaille un peu plus parce que ça me tente. J'ai aussi l'opportunité parce que mon fils est rentré à l'école depuis septembre, en fait, et j'ai plus d'espace pour moi. Mais là, j'ai envie de travailler. C'est pas pareil. Quelqu'un qui n'a pas envie de travailler, qui est obligé de travailler, c'est pas la même dynamique du tout. Mais dans les 5 dernières années, je travaillais 15 à 20 heures semaine seulement. Point. Initialement, parce que j'avais mon fils à la maison par choix. Je voulais l'avoir avec moi aussi. Mon mari, qui a aussi à peu près la même entreprise, donc était capable de s'adapter de la même façon. Donc, lui travaillait 20 heures, je travaillais 20 heures, le reste du temps, ben, on avait notre chiffre de travail, disons, tu sais, ouais. Genre comme ça. Eliott a été, mon fils est allé 1 an à la garderie seulement. Avant ça, il était avec nous. C'était important pour moi d'avoir ce temps-là. C'était important pour moi. Puis après ça, il y a vivre avec mon fils, mais il y a aussi le voyage. J'attends pas à 65 ans pour voyager, là. De toute façon, à 65 ans, tu peux être malade, tu peux y avoir tes moyens forts, blablabla. Il y a les voyages plus aventuriers, disons. Ben là, tu fais peut-être un peu moins, t'es moins confortable, ce genre de trucs-là. Mais je veux pas attendre. Je veux faire maintenant. Donc, j'ai créé ce modèle-là pour la vivre tous les jours, ma retraite au final. Puis c'est un peu la même chose, dans le sens où comme, ouais, on travaille, pour plus tard, on va faire de l'argent. J'ai comme, tu peux-tu faire de l'argent maintenant? Non, mais pour vrai! Est-ce que ça va être autant? Genre, pas nécessairement. Il y a vraiment une courbe d'apprentissage où peut-être que tu vas avoir besoin d'avoir un emploi, un CDI pendant que tu travailles, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas quand même te payer un petit montant à chaque fois. Donc, le principe donc, de Profit First, pour en finir à Profit First, c'est de se payer en premier et de mettre aussi des profits en premier que tu vas peut-être ensuite... Dans le livre, il suggère qu'au trimestre, tu prennes 50 % de ce que tu as été mis dans le trimestre, donc... dans ce compte-là, mettons qu'il y a 5 000 dans le compte profit qui a été accumulé là, de prendre 2 500, de te le verser à toi comme une espèce de bonus de travail, puis ensuite au trimestre suivant, mettons qu'il n'y a rien qui a été rajouté dedans, ben de prendre la moitié de 2 500 et ainsi de suite. Mais c'est pas vrai, d'habitude, on en rajoute et on en rajoute et on en rajoute. Mais avec le temps, ben, éventuellement, puis là, après ça, l'expérience de moi, je ne prends plus nécessairement mon profit, je le remets dans l'entreprise où je fais des investissements avec. On fait ce qu'on veut avec. Mais dans tous les cas, c'est de pas se sous-payer. Là. C'est de prendre son projet puis d'en faire vraiment. Non, c'est mon entreprise. Puis souvent même, je pense que à la limite, ça ajoute au phénomène où on se dit « Ah oui, mais non, mais j'ai mon emploi. Et ah oui, mais je suis aussi entrepreneur. » Non, t'es entrepreneur puis en attendant, t'as une job pour payer tes factures.
Ouais.
T'sais, de le voir comme ça à la place, je trouve que ça te met dans cette position de pouvoir-là un petit peu plus sur toi-même puis de dire « Non, je vais reprendre ce contrôle-là. » Puis c'est ça que je voulais pour moi.
OK. Incroyable.
Non, mais je suis contente. Puis j'espère que je te vois faire comme « Ah ouais, c'est cool, c'est pas nécessairement un discours. » À la limite qu'on entend, mais je suis comme « Je veux que les gens entendent ça. » Puis ils disent « OK, j'ai le droit de me payer tout de suite. » C'est comme pas injuste vis-à-vis de ma business que je lui donne tout, qu'est-ce qu'elle est capable. Non, puis c'est la même chose avec tes enfants. Si tu donnes tout, il reste plus rien pour toi. Non, c'est vrai.
Ah ouais, ça, moi, oui.
Voilà.
Moi, j'ai dit à mes filles, moi, « Désolé, les filles. » Vous aurez peut-être de l'héritage, mais comptez pas sur moi. Démerdez-vous toute seule.
Ouais, ben non, mais la meilleure chose que tu peux leur faire, c'est de leur éduquer comment faire leur propre indépendance
exactement.
Financière. Exactement. Ouais, j'y crois aussi.
Offre, apprends à un homme à pêcher.
Et voilà.
Plutôt que de lui donner un poisson.
Oui, je sens pour ça.
Je sais pas si tu connais.
Oui, non, je sais exactement de quoi tu parles. Mais oui, j'ai été à l'église longtemps quand j'étais jeune. Mais oui.
Ça s'apprend à l'église, ça?
Oui.
Ah merde, ok, je l'avais pas.
Ouais, je suis très athée, mais mes parents l'étaient pas. Et j'étais à l'église chaque dimanche jusqu'à l'âge de 13 ans. Et oui, c'était pas l'anecdote avec les poissons. Écoute, peut-être j'ai complètement tort finalement. Mais il y avait une anecdote avec un poisson avec le filet.
Ben, t'as raison.
Hein. Ouais, peut-être pas pantoute finalement.
Non, j'en sais rien.
Dans tous les cas, il y a une anecdote avec des poissons dans la Bible.
Voilà. Ah bah ben, ok.
Il y en a une autre, peut-être. Voilà.
Avis à tous les gens. Souvent, moi, j'aime pas trop la religion. Donc,
je suis très athée.
Je dis aux gens, oui. Souvent, quand ça parle de religion, je suis là, bon, je suis un peu critique.
Oui, mais là, c'est drôle, l'histoire de poisson.
Il y a des gens qui sont souvent... qui m'engueulent un petit peu, tu vois, quand je critique la religion. Donc là, c'est votre moment. N'hésitez pas à envoyer un commentaire.
Mais on fait pas de critique, c'est juste un passage qui n'est peut-être pas là.
Non, peut-être.
Je sais qu'il y a l'affaire avec des poissons. Bref.
Comment t'as l'impression de revenir, toi, justement, tu vois, tu parlais de l'éducation par rapport à ton fils, où t'as toi-même été éduqué dans une éducation où peut-être il y avait de la sécurité, etc. Mm-hmm. Comment t'as la sensation que vous allez transmettre le rapport à l'argent à ton fiston qui a 5 ans aujourd'hui, c'est ça? Donc
oui,
il est encore petit, mais...
Ouais, non, oui, mais en même temps... On essaie de regarder j'ai pas les solutions encore à tout.
Ouais.
Dans le sens, bon, en fait, est-ce que je vais ever avoir les solutions à tout? Mais à regarder, c'est quoi l'approche qu'on fait encore?
Ouais.
On regarde, on essaie de penser, est-ce que, tu sais, mettons l'argent de poche. Est-ce que oui, est-ce que non, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que ça fait en sorte que les enfants sont entitled, ils s'attendent à ce qu'on reçoive de l'argent pour rien? Mais mon objectif, ça serait jamais pour rien. Ça, effectivement, je suis d'accord. Faudrait qu'il y ait quelque chose, une forme de comme j'ai fait un effort, puis c'est ça qui se passe, mais. Je suis pas sûre encore, mais ce qui est important pour moi à la limite, c'est de lui montrer comment ça fonctionne, le compte de banque. Mon fils est bienvenu dans mon bureau quand je fais pas d'entrevue de podcast. Mon fils est bienvenu dans mon bureau, puis quand je fais les trucs de finance, je peux lui montrer. C'est sûr qu'en ce moment, c'est des concepts qui sont un peu abstraits, mais de parler de l'argent puis de comprendre, ben ouais, c'est faut que tu l'accumules dans un petit compte, mais il y a pas que l'accumuler, il y a aussi éventuellement on va parler d'investissement pour voir comment est-ce qu'on peut diversifier les revenus. C'est encore très tôt pour toutes ces choses-là. Mais je consomme du contenu par rapport à ça, comment élever les enfants par rapport à l'éducation financière. Puis il y avait des... Ça, je ne me rappelle plus c'était quel contenu. Je ne suis pas capable de donner le crédit, malheureusement, en ce moment. Mais justement, d'aller parler, ben on va te donner de l'argent de poche pour les différentes tâches qu'on s'entend ensemble. Mais après ça, on va déterminer ensemble, à la limite, un petit peu comme Profit First, on va déterminer ensemble comment est-ce qu'on va splitter cet argent-là. Donc, peut-être qu'il y a de l'argent de dépense. Tu sais, tu peux aller t'acheter des bonbons, des affaires comme ça. Peut-être qu'il y a ensuite une autre catégorie qui est éventuellement une catégorie d'investissement. Mais ça prend quand même une compréhension un petit peu plus poussée. Mais sinon, tu as une catégorie pour les dons. Donc, d'aller même insérer dans ce discours-là tout le comment est-ce qu'on peut aider les autres avec notre argent. Ce qui est super important pour moi aussi, même à travers l'entreprise. Avec Catching, on fait des dons. À chaque année, l'an passé, on a donné 17 000 $ à un organisme à Montréal. En fait, ça fait 2 ans qu'on donne à peu près des montants similaires. Fait que, tu sais, avec l'argent, on peut avoir un impact positif sur le monde. C'est pas juste comme juste sur nous. Ça peut être sur la famille. Tu sais, éventuellement, oui, tes besoins sont tout remplis. Comment est-ce qu'on peut aller plus loin? Donc, les dons aussi. Puis ensuite, oui, ben, tu sais, l'épargne pour les projets qui sont importants. Qu'est-ce qui est important pour toi, Elliot? Tu sais, puis de pas nécessairement être dans le jugement de c'est quoi la réponse. C'est sûr qu'un enfant de 5 ans va donner des réponses. Ouais, ça va être le camion en plastique. Ici pour le Père Noël, c'est pour Noël. Je sais pas, ça sera ça pour l'instant. Mais bref, d'aller vraiment explorer c'est quoi les différentes facettes de façon positive de l'argent, comment ça peut, oui, nous supporter, mais nous amener cette liberté-là, comment on peut avoir un impact positif. Fait que je sais pas exactement c'est quoi l'approche parce qu'on n'a pas encore commencé l'histoire de la compensation, mais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire.
Trop intéressant, hein? Non, mais tu sais, de réussir, j'ai l'impression que t'as pas mal nettoyé ta relation à l'argent, de l'aspect émotionnel et tout?
Oui, oui, non, définitivement. Pour moi, c'est très positif, là. Vraiment, okay. Oui, non, pour moi, c'est vraiment genre, j'aime faire de l'argent. J'aime parler d'argent. J'aime que les gens disent qu'ils aiment faire de l'argent. Ouais. C'est quelqu'un qui me dit genre, ah, je sais pas trop, je pense que j'aimerais faire 100 000 $ cette année. Je suis comme, yeah! Genre, je suis vraiment comme l'espèce de cheerleader en arrière, genre, bravo! Genre, c'est super important parce que quelqu'un qui rentre dans ce rôle-là, pour moi, c'est comme j'ai fait mon rôle. Il y a eu un déclic que peut-être dans lequel j'ai participé. Puis ça, pour moi, c'est extraordinaire.
T'as l'impression d'avoir nettoyé l'aspect sécurité? Parce que tu sais, tu disais que ta famille t'a élevé un peu là-dedans.
Ouais.
Et je sais que c'est, je crois, sans doute le truc le plus difficile. C'est-à-dire, est-ce que tu te projettes demain ruiné et que t'es OK avec l'idée que tu te dis, j'aurais de quoi rebondir?
Oui.
Ouais.
Mais oui, parce que, mais ça, c'est ma confiance en mes capacités entrepreneuriales. Dans ce sens, comme, ça se peut qu'il y ait quelque chose, un mauvais move financier. Hein? Ça se peut que, je sais pas, plus personne aime catching. Ça, je sais plus, tu sais. Hein? Tout se peut. Mais qu'est-ce qui se peut pas, c'est que je perde mes acquis.
Ouais.
Que je perde ce que j'ai appris. Mmh. Tous ces trucs-là. Donc, si c'est pas en entrepreneuriat, ça va être dans la mixologie, ça va être dans les plantes. J'adore les plantes. D'intérieur, pas d'extérieur. clairement, j'ai un opinion binaire là-dessus. Mais bref.
Pardon.
clairement. Mais il y a d'autres choses.
Ouais.
Je suis pas une personne unifacette. Il y a d'autres choses, tu sais. Fait que tous ces apprentissages-là au niveau de l'entrepreneuriat, de la vente, de comment se vendre, la confiance qui a été bâtie aussi en l'image, que, tout ça, ça se perd pas, là. C'est comme le vélo. T'sais, une fois que c'est fait, même si ça fait 20 ans que tu l'as pas fait, ça va repartir. J'y crois vraiment fondamentalement. Et donc, par défaut, l'argent, c'est la même chose. C'est comme on va se rebâtir. Puis comme, écoute, je les ai faites aussi, les petits appartements, les trucs. J'ai pas eu... Quand je suis sortie de chez mes parents, qui avaient une belle grosse maison, je suis allée quand même dans un appartement qui était très ordinaire et très, 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 très vieux. Puis... ironiquement, je sais pas si c'est ironique, mais je suis sortie à 19 ans chez mes parents parce que l'université, c'était loin, c'était à 2 heures, puis j'avais besoin de partir ailleurs.
Oui.
J'avais besoin de partir ailleurs, de vivre mes propres trucs.
C'est bien.
Et puis, mon frère habite encore chez mes parents, puis il n'y a pas exactement la même relation, mais vu que mon frère et ma sœur sont restés plus longtemps, en commençant même leur vie d'adulte, ils ont commencé, je crois, à se mettre des standards de « c'est comme ça que ça doit être la vie quand je vais sortir ». Puis ça devient vraiment difficile de trouver, d'accepter de commencer plus bas, puis de bâtir, parce que le confort a été tout le temps là, tu sais. Puis je suis comme, ben à la limite, c'est important de vivre l'inconfort, tu sais. C'est cette sortie de zone de confort-là que je recherche moi-même en voyageant aussi. C'est devenu vraiment genre... j'aime ça, ça me challenge, ça me fait grandir. L'espèce de cocon dans lequel on a vécu a comme backfire parce qu'on n'a pas eu l'éducation aussi de comme, ouais, mais il existe d'autres choses.
Comme backfire, tu veux dire?
Ça crée un problème.
Oui, ça finit par créer des soucis.
Ouais. Absolument, oui. Fait que, oui.
Non, oui. Non, j'essaie de traduire pour...
Non, mais merci.
Tout le monde n'est pas...
Non, mais on n'utilise pas les mêmes expressions anglophones. Déjà, on dit fin de semaine. Nous, on ne dit pas week-end.
Tu dis entrevue.
Exactement.
Incroyable.
Exactement. Fait que c'est ça. On n'utilise pas les mêmes anglicismes ou littéralement les expressions anglophones du tout. Fait que oui, traduit. Traduit, away.
Pas de problème. Ouais, donc tu as vraiment l'impression que cet aspect-là, il est nettoyé de ton côté et que
ben écoute,
c'est chouette. Hein.
Si j'étais pour perdre tout mon argent, probablement que je finirais en boule dans un coin en pleurant. Mais après ça... faut vivre les émotions, puis après ça, on se relève les manches, comme j'ai fait la dernière fois.
T'es pas paniqué aujourd'hui à l'idée de le faire?
Non, j'ai déjà fait.
Ouais.
C'est tout, ça. Voilà. Une fois qu'on l'a fait, après ça, c'est comme, bon, on veut pas le refaire. Puis c'est pour ça qu'on fait tout dans notre pouvoir pour bâtir, pour moi, dans ce contrôle-là, à la limite.
Oui,
je veux pas le refaire, mais j'ai pas mal
de contrôle, hein, quand même.
Oui. Oui.
Ouvrir le compte
de
banque.
Je savais que t'allais
dire. Tac, 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 tac.
Non, ouais, c'est important pour moi. Je suis quelqu'un qui est très, très structuré dans comment je fais les trucs. Ça me rassure à la limite, cette façon.
Ouais. Ouais. Mais tu passes quand même. En fait, en vrai, si je voyais de l'extérieur, je me dirais, OK, tu pourrais peut-être y passer moins de temps dans tes comptes.
Ben, c'est pas très long, là. Ça me prend 5 minutes chaque fois. C'est vraiment ça. C'est de regarder, c'est est-ce que tout est à jour? Parce que j'ai le logiciel de budget, les comptes. Est-ce que tout est à jour? Est-ce que... Oui, c'est fini. C'est tout.
Ah ouais, donc... Ouais, OK, parce que quand tu me dis 3 fois par semaine, je me dis OK.
Non, c'est 5 minutes, là.
OK.
Après ça, le money split que je te parlais avec le pourcentage et tout, ben, ça va me prendre 15 au lieu de 10 au lieu de 5.
Ouais.
C'est pas très long, là.
OK.
C'est vraiment bouger de l'argent d'un compte à l'autre, c'est vraiment tout. C'est sûr que, bon, il y a d'autres tâches financières qu'on fait, mais c'est ça, c'est comme tout le monde, ça. Mais ce que moi, je rajoute, regarder les comptes par semaine, c'est pas long.
OK.
Ouais.
T'es passé de combien de revenus quand tu t'es lancé là à aujourd'hui?
Quand je me suis lancé en français?
Bah ouais.
Zéro.
Oui.
Non, mais pour vrai.
C'était il y a 6 ans.
En 2018. En 2018, je me suis relancé parce que c'était un nouveau projet, mais j'avais quelque chose avant. Je me suis lancé donc en français. Je partais absolument de rien. Aucune audience. Mon podcast, j'avais un podcast avant, puis je me suis dit, c'est un médium qui m'intéresse, je vais aller vers là, mais personne ne me connaissait du tout.
Je mettrai le lien vers ton podcast, Effronté.
Merci, effectivement. Mais c'est le deuxième, parce que le premier, donc, c'était Les vraies affaires à l'époque, qui est encore existant, mais que je ne nourris plus. J'avais rien. J'avais aucune audience. C'était zéro. Ce que j'avais, par contre, c'était la sécurité du salaire que je me versais avec l'autre entreprise, qu'éventuellement, j'ai laissé aller parce que là, mon entreprise fonctionnait déjà. Mais pour moi, c'est l'équivalent d'avoir un emploi pendant qu'on construit notre entreprise. Dans le sens où c'est important. Quand je vois les gens se lancer en affaires directement, ils lâchent le CDI, ils lâchent l'emploi parce qu'ils se disent, sais-tu quoi? Non, je suis tannée, je suis plus capable, je ne veux plus entendre parler d'avoir un patron. Puis je suis comme, OK, cool. T'as-tu mis en place les choses pour être prête à survivre au début? Parce que la chance que tu as une croissance phénoménale, comme on voit, parce que c'est les exceptions qu'on voit, est très mince. Fait que de façon réaliste, tu es vraiment mieux de rester, de mon point de vue, tu es vraiment mieux de rester puis d'avoir ce filet-là. Oui, peut-être que tu as mis de l'argent de côté, mais tu sais, c'est pas mauvais avoir ce support-là pendant qu'on construit. On est parti de zéro avec le salaire. Puis là, on est rendu, ma dernière année financière, mettons de janvier à décembre, 1,10 million.
De dollars canadiens,
oui.
C'est ça?
Oui, par année.
Ça fait, en euros?
800,
c'est incroyable.
800, 750, je ne sais pas, quelque chose comme ça.
Oui. Et tout ça, tu disais tout à l'heure, tu le mentionnais, mais je ne suis pas sûr que les gens connaissent. Tu as parlé d'affiliation.
Ouais.
Tu peux expliquer un petit peu ce que c'est? C'est des revenus passifs.
Oui et non, ça dépend.
Okay.
Je te dirais que, déjà, passif, moi, je mets des gros guillemets autour des revenus passifs.
Oui, il faut faire attention à ça.
Oui, mettons,
ça ne tombe pas automatiquement, l'argent.
Je préfère les revenus exponentiels. Parce qu'on travaille une fois, puis ensuite, on peut avoir des revenus qui se bâtissent avec le temps. Mais, donc, l'affiliation, le pire, c'est qu'on connaît beaucoup. Par exemple, les gens qui travaillent à la commission dans les magasins de vêtements. C'est un peu la même chose. C'est juste que là, c'est dans un cadre qui est spécifique, qui sont employés aussi. Mais l'affiliation sur le web, dans le sens où je l'entends, dans le sens où je l'ai appris, c'est vraiment, donc, disons que tu as un produit, tu as une formation en ligne sur les entrevues. Disons que tu as une formation en ligne sur les entrevues. Puis je dis, écoute, j'ai envie d'en parler à mon audience. Est-ce que je peux faire la promotion? Puis tu me dis, oui, ça me ferait plaisir. Pour te récompenser, je vais donner 30 % de commission, donc de 30 % du revenu généré.
De mon chiffre d'affaires.
De la vente, spécifiquement, à toi, à travers un lien spécifique à toi. Donc, ça met un cookie, il y a différentes façons, mais bon, on rentre dans la technique et c'est tout. Donc, c'est vraiment de faire la promotion des autres ou d'avoir d'autres personnes qui font la promotion de notre propre contenu, de notre propre produit en échange d'une commission. C'est tout.
Voilà.
C'est tout ce que c'est. Puis pourquoi, pour moi, c'est pas passif? C'est que oui, tu peux parsemer des liens affiliés sur ton site web au vent, comme ça, en espérant que les gens achètent puis que ça soit une autre source de revenus. Mais la réalité, c'est que ce qui est vraiment le plus efficace, c'est quand on est activement dans le processus, qu'on fait la promotion à la limite comme si c'était notre produit, qu'on fait le pont entre notre audience puis le produit. Parce que sinon, notre audience qui ne nous suit pas nécessairement pour ce produit-là en général ou cet angle-là va dire « What's in it for me? » C'est quoi mon avantage à moi d'aller là? Puis notre rôle d'affilié pour moi, c'est de faire ce pont-là.
Et ça, c'est ton business en grande partie, c'était revenu ça?
En 2013, dans le fond, je te disais, on s'est associé avec des gens qui nous ont donné beaucoup de visibilité avec Nick. Lui avait créé un e-book. Et on a eu des affiliés, donc, avec des listes massives de 800 000 personnes qui ont cru en ce produit-là et qui ont décidé d'être affiliés sur le projet. Ça fait en sorte qu'on a généré beaucoup, beaucoup de commissions rapidement. Et donc, quand les gens achètent, nous autres, on reçoit leur courriel, finalement, à travers ce processus-là. Donc, la communauté a vraiment, vraiment grandi. Donc, on était vendeurs à ce moment-là. Mais tout de suite après, qu'est-ce qu'on fait avec la liste? On a commencé à faire de l'affiliation pour d'autres personnes. Donc, on a fait du remarketing à cette liste-là. Donc, j'ai vraiment expérimenté les deux initialement, pas à travers mes propres produits. Et à partir de 2018, là, premièrement, c'est un sujet que encore aujourd'hui, c'est inconnu clairement. Puis je suis comme, but why? Le marketing d'influence, c'est super. Tu sais, les prix fixes pour un post ou ce genre de trucs-là, je suis comme, ça pourrait être tellement plus rentable si la personne a un match parfait entre le produit et l'audience, puis que ça vend full, l'affilié pourrait être beaucoup, ou l'influenceur pourrait être beaucoup plus rémunéré dans ce cas-là, mais c'est un risque. Parce que si ça ne fonctionne pas, t'es pas payé du tout.
Zéro.
Mais c'est ta job d'affilié de faire la bonne recherche, de vraiment mettre le bon produit devant les bonnes personnes. Donc, c'est super important. Donc, oui, je me suis entourée d'affiliés dans le processus. J'ai lancé mes formations et j'ai lancé une formation là-dessus aussi. J'ai été affiliée. Ça fait partie du modèle. Pour moi, la collaboration, c'est là depuis la base. Puis c'est la base de Catching aussi. C'est ça le modèle d'affaires. C'est juste l'affiliation à peu près. Oui, bon, il y a des suppléments, il y a des concours en arrière, mais c'est juste l'affiliation. Que quand les gens me disent, oh, mais comment, pourquoi est-ce que les gens participent? C'est tellement un prix minuscule. Comment est-ce qu'on fait pour faire de l'argent? Ben déjà, un, c'est le volume. Puis deux, ben, c'est de l'affiliation. Ils reçoivent 50 % de commission sur toutes les ventes. C'est comme ça que ça marche. Point. Fait que c'est vraiment, ça fait vraiment des années que j'utilise ça dans les deux sens. Et ben, pour moi, c'est une façon aussi de rendre ton entreprise plus durable. Parce que si tu n'as plus Instagram, si tu n'as plus Facebook, si même ta liste de courriels, il n'y a plus rien qui est là, tu peux toujours te reposer sur ton réseau qui va peut-être même aller t'aider parce que tu as bien entretenu puis chouchouté ces gens-là.
Passionnant. Merci Geneviève.
Ben, ça fait plaisir.
Notre temps imparti est terminé.
Oh mon Dieu, c'est allé vite.
C'était passionnant.
Ben, tant mieux, je suis
contente. Je mettrai tous les liens pour les gens qui veulent découvrir ton univers.
Des backlinks.
Des backlinks, voilà. C'est les femmes.
Oui,
vous l'avez compris, c'est là-dessus que repose partie le job d'affilié.
Entre autres, oui. Mais merci beaucoup pour l'invitation.
Avec grand plaisir.
J'espère que ça va avoir allumé une coupe de lumière dans ta tête des gens.
J'en suis sûr. C'est canon. Merci beaucoup.
Merci.
Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt, so throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.